Lettre 12e. De la culture de l'engourdissement. Mon cher Wormwood, tu fais indéniablement de rapides progrès. Je crains seulement que, dans ton zèle à pousser ton patient, tu ne lui ouvres les yeux sur sa véritable situation. Car toi et moi, qui voyons exactement où il en est, nous ne devons jamais oublier sous quel jour tout à fait différent elle doit lui apparaître à lui. Et nous savons que nous avons donné à sa vie une nouvelle orientation, que nous l'avons fait sortir de l'orbite de l'ennemi, mais il faut que lui, il s'imagine que les décisions qui ont amené ce changement de direction sont sans importance et qu'il peut facilement revenir sur elles. Il ne doit pas soupçonner un seul instant qu'il est en train de s'éloigner imperceptiblement du soleil sur une trajectoire qui va l'entraîner dans l'obscurité et le froid de l'espace lointain. C'est pour cette raison que je suis presque heureux d'apprendre qu'il fréquente encore l'église et qu'il participe toujours à la scène. Je sais qu'il y a là un danger, mais il vaut mieux cela qu'une impression de rupture entre les premiers mois de sa conversion et maintenant. Aussi longtemps qu'il conserve ses habitudes chrétiennes, au moins en apparence, il sera relativement facile de lui faire croire que, tout en s'étant fait quelques nouveaux amis et tout en se livrant à certains divertissements, il est sensiblement dans le même état spirituel qu'il y a 6 semaines. Aussi longtemps qu'il verra les choses de cette façon, nous n'aurons pas affaire au repentir sincère d'un homme et qui a pleinement reconnu son péché, mais seulement à un vague malaise dû à l'impression qu'il n'a pas fait de son mieux ces derniers temps. Ce léger tourment demande à être traité avec soin, car s'il augmentait, il pourrait réveiller ton patient et nous gâcher la besogne. Mais par ailleurs, si tu le supprimais complètement, ce que, soit dit en passant, l'ennemi ne te permettrait vraisemblablement pas, nous perdrions un élément qui pourrait tourner à notre avantage. Si ce trouble demeure latent, sans pour autant devenir irrésistible et produire un réel repentir, il a tendance à augmenter sensiblement les réticences de ton patient à penser à l'ennemi. De tout temps, les hommes ont connu cela sous une forme ou sous une autre. Mais lorsque penser à l'ennemi signifie pour eux faire face aux sentiments vagues, mais toujours plus intenses de leur culpabilité, et surtout s'ils n'en sont qu'à moitié conscients, cette réticence se multiplie par 10. Ils haïssent tout ce qui pourrait les faire penser à lui, de même que les gens qui ont des difficultés financières détestent la vue d'un carnet de chèques. Une fois dans cet état, ton patient, tout en continuant à remplir ses devoirs religieux, y trouvera de moins en moins de joie. Il y pensera le moins possible à l'avance et les oubliera dès qu'il en sera débarrassé. Il y a quelques semaines, il fallait que tu le tentes pour qu'il cesse d'être vrai et attentif lorsqu'il priait. Mais maintenant, il t'accueillera à bras ouverts et te suppliera presque de le faire penser à autre chose et d'engourdir son cœur. Il voudra lui-même ne plus prier que pour la forme, car il ne redoute rien autant qu'un contact authentique avec l'ennemi. Il fera tout en son pouvoir pour ne pas réveiller le chat qui dort. Au fur et à mesure qu'il s'enfoncera dans cet état, tu te trouveras peu à peu libéré de la corvée à laquelle tu étais astreint de le tenter par le plaisir. Tandis que son malaise et sa réticence à aller à la racine de ce mal le sèvreront de plus en plus de tout réel bonheur, et que l'habitude rendra le plaisir que lui procurent les futilités, les frivolités et les sensations fortes à la fois plus fades et plus indispensables, ce sont là les heureux effets de l'accoutumance, tu constateras que n'importe quoi fera l'affaire pour retenir son attention vagabonde. Tu n'auras plus besoin d'un bon livre qui le passionne pour l'empêcher de prier, de travailler ou de dormir. N'importe quelle page de publicité dans le journal de la veille aura le même résultat. Tu parviendras à lui faire perdre son temps, non seulement en conversation intéressante avec des gens qu'il aime bien, mais encore en discussion ennuyeuse avec des personnes qui lui sont indifférentes. Tu arriveras à le réduire à l'inaction pendant de longues périodes. Tu le tiendras éveillé jusque tard dans la nuit, non pas à faire la bringue, mais à regarder fixement un feu éteint dans une chambre glaciale. Tu pourras lui interdire toutes les sorties dans la nature et bien d'autres activités saines du même genre que nous réprouvons, sans rien lui donner en retour. si bien qu'il dira en fin de compte ce qu'a dit l'un de mes propres patients au moment de son arrivée ici-bas. « Je vois maintenant que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à ne faire ni ce que j'aurais dû, ni ce que j'aurais voulu. » Les chrétiens définissent l'ennemi comme celui en dehors duquel le néant devient fort. Et il y a une grande force dans le néant, assez grande pour dévorer les meilleures années de la vie d'un homme, non par la jouissance de péchés délectables, mais par quelques mornes soubresauts de l'esprit au sujet d'un je ne sais quoi, par l'assouvissement de curiosités si peu éveillées qu'il n'en est qu'à moitié conscient. Cet homme passera son temps à se tourner les pouces, à tambouriner contre la vitre, à siffloter des airs qui le laissent indifférent, à se perdre dans le sombre labyrinthe de la rêvasserie, sans que le désir ou l'ambition ne donne à celle-ci du piquant, et sans qu'une fois qu'il s'y est laissé aller, l'homme ait la force ou la lucidité d'y couper court. Tu me diras qu'il s'agit là de bien petits péchés, et sans doute comme tous les jeunes tentateurs, es-tu impatient de pouvoir nous annoncer des perversions spectaculaires? Mais rappelle-toi que la seule chose qui compte est la mesure dans laquelle tu as réussi à séparer ton patient de l'ennemi. Peu importe que ces péchés soient véniels, pourvu que leur accumulation ait pour effet de l'écarter tout doucement de la lumière pour le conduire dans le néant. Un meurtre ne vaut pas mieux qu'une partie de cartes si celle-ci peut faire l'affaire. En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique ni poteau indicateur. Ton oncle affectueux, Scrutin.